On est pour une édition un peu spéciale, au sourire au pied de l'échelle. On est toujours dans le cycle Loire parce que c'est justement une déguste spéciale Loire qui se passe ici.
Donc c'est l'occasion de découvrir deux vignerons de Loire à l'occasion donc de l'événement Les Vignerons à Paris, donc des femmes qui font du vin, c'est top. Et là, on a le plaisir d'interviewer Lise Jousset du domaine Lise et Bertrand Jousset à Montlouis-sur-Loire. Donc merci de nous accorder quelques
Bonsoir.
Minutes, Lise. J'ai eu l'occasion de goûter le premier rendez-vous. C'est pas mal pour un premier rendez-vous. Je trouve ça plutôt bien. Je veux bien revenir au deuxième rendez-vous.
C'était la version longue de premier rendez-vous.
Donc c'est super. Lise, je voulais d'abord te poser la question. Toi et Bertrand, en fait, vous n'êtes pas nécessairement élu du milieu du vin. Toi, tu es originaire
des Deux-Sèvres,
c'est ça.
Tu es fille
de paysan.
Vache laitière, céréales en culture totalement classique.
Ouais, conventionnelle.
Voilà. C'est ça.
Voilà.
Et j'ai fait mes études en restauration, donc j'ai été serveuse, chef de rang, maître d'hôtel. Après, je suis partie travailler après mes études. Et je suis un peu à l'étranger, je suis rentrée en France et j'ai repris mes études en sommellerie.
D'accord.
Donc j'ai fait 3 ans d'études en sommellerie, CAP, brevet professionnel. Et puis après j'ai rencontré Bertrand, qui lui a été militaire. Il a quitté l'armée en 98, il a fait une reconversion en viticulture, œnologie au lycée viticole d'Amboise.
D'accord.
Et puis il a bourlingué un petit peu, plutôt dans la région, en Val-de-Loire, Touraine, Vouvray-Mont-Louis. Il a bossé un petit peu en Suisse, il a fait une saison en Suisse, une campagne. Et quand on s'est rencontrés, il travaillait à Vouvray, et moi je travaillais à Paris. Puis on a eu l'opportunité de reprendre un domaine. C'était pas prévu, on s'était toujours dit qu'un jour on ferait du vin ensemble. Du Chenin, évidemment.
Ouais, l'amour du
en
Chenin.
En Loire, forcément.
Forcément, oui.
Et voilà, et ça s'est fait à mon
Donc le Chenin, cépage, le roi des cépages blancs pour vous.
Absolument.
Ouais. Très difficile à travailler, très sensible.
Ouais, il ne nous fait pas de cadeau le Chenin.
Non,
ouais.
C'est clair. Et surtout, qui permet de s'exprimer sur un tas de styles.
Toute une gamme de vins.
Des bulles.
On peut jouer toutes les gammes.
Jusqu'au liquoreux.
C'est ça.
Ouais.
Des
Magnifique.
Secs. On peut faire aussi bien des blancs glouglou, entre guillemets,
ouais.
Sur la fraîcheur, des cuvées de printemps. On peut pousser les élevages sur des jus qui ont plus de structure, sur des cuvées un peu terroir. On fait des méthodes traditionnelles, des pétillons naturels. Enfin, la gamme est large.
D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la spécificité de votre terroir, de Montlouis, les vins sur Montlouis,
l'appellation. Montlouis, ça se situe donc entre Tours et Amboise, rive gauche de la Loire. C'est une petite appellation qui représente 400 hectares de chenin plantés sur l'aire d'appellation Montlouis. Si on veut comparer à l'appellation Vouvray, qui représente 2500 hectares. Donc c'est tout petit, c'est pas non plus une micro-appellation, mais voilà, c'est pas énorme. Il y a environ une petite cinquantaine de vignerons à Montlouis, la moitié en indépendant, c'est-à-dire récoltant, vinificateur, et l'autre moitié en coopérateur.
D'accord.
Voilà.
Puis avec des grands noms comme Jacques Hiblot,
François Chidène. Donc qui sont un peu les défricheurs de l'appellation Montlouis. Fin des années 80, début des années 90. Et il s'est passé un truc incroyable à Montlouis, c'est qu'au début des années 2000, sont arrivés tout un certain nombre de jeunes dont on fait partie. Donc on est moins jeunes maintenant.
Oh mais non.
Mais voilà, donc plein de jeunes arrivés d'autres horizons professionnels, beaucoup de reconversions.
Ouais, c'est une terre une terre d'installation. Ouais.
Donc Bertrand et moi, on est arrivés en 2004. Il y a Franz Saumon qui est arrivé en 2002, qui travaillait dans la gestion forestière. Et après, il y a aussi des fils d'eux qui sont revenus sur les domaines. Il y a Damien Delay-Chenot.
Oui, avec Coralie,
voilà.
La Grange Tiffaine.
C'est ça.
Des gens très sympathiques et des vins
domaine,
très très beaux.
Belles personnes.
Absolument.
Donc Damien a repris le domaine familial en 2002. Il a fait ses études en viticulture. Il a bougé pas mal en France et hors de France, même très loin, Afrique du Sud, États-Unis. Voilà. Et ce qui est la particularité de Montlouis, c'est que donc toute cette bande de jeunes, j'en ai cité que quelques-uns, mais il y en a plein d'autres. On travaille tous dans le même esprit. Déjà, on culture biologique pour la plupart. Et puis, surtout, on est arrivé à Mont-Louis avec une idée du vin qu'on avait envie de faire. Et en ce qui nous concerne avec Bertrand, Bertrand a fait un peu d'études sur la production. Moi, pas du tout. Mais on était vraiment sur... je pense qu'intuitivement, on a œuvré, on a mis en place des choses, des modes de production pour arriver au but qu'on avait.
Voilà. Et tout ça dans l'idée de valoriser votre terroir.
C'est ça.
Le mettre en avant.
Oui. Et donc, la particularité avec toute cette émulation de jeunes vignerons, il y a beaucoup d'entraide. Il y avait beaucoup d'entraide quand on est tous arrivés. Et encore maintenant, on serre les coudes dans les difficultés qu'on peut rencontrer. Donc, c'est vraiment chouette.
Super. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu, justement, là, de vos pratiques culturelles, justement, comment vous appliquez cette idée du vin, cette idée du terroir, comment ça se traduit dans le travail de vos vignes?
Donc, nous, on a 11 hectares de vignes. On a un vignoble qui est très morcelé. On a 28 parcelles. On a 9 hectares de chenin, 1 hectare de gamay et gros lot et 1 hectare de chardonnay.
D'accord.
Donc ça nous permet de nous amuser aussi avec d'autres types de vins, d'autres cuvées.
Sur des sols plutôt argilo-calcaires.
Alors, on a une particularité, on a un terroir qui s'appelle le Clos Renard.
Oui.
Donc là, on est sur des argilo-calcaires, qui est un terroir un peu particulier à Mont-Louis. Ce n'est pas les seuls argilo-calcaires à Mont-Louis, mais il y en a relativement peu. Sinon, les sols à Mont-Louis, c'est plutôt ce qu'on appelle, nous, des perruches.
Ah oui,
donc,
les fameux...
On est sur la roche calcaire, on est sur un plateau calcaire, sur le coteau de la Loire. Donc, on a la roche-mère calcaire sous nos pieds. Et après, en surface, il y a toujours un peu d'argile. Et au-dessus, c'est sable et silex.
D'accord.
Donc
et ça donne
argile, sable à silex.
On le ressent à travers vos vins. Enfin, qu'est-ce que ça apporte?
Alors,
dans vos...
Il y a plusieurs types de perruches. Il y a certains terroirs qui sont où on a des argiles un peu plus fortes.
Oui.
Nous, on a la majorité de nos vignes sur le plateau de Husseau. Donc c'est un lieu-dit de la commune.
C'est l'un des villages qui est en appellation Mont-Louis.
Plus on est au cœur du plateau, plus on a des sols argileux.
Donc qui retiennent l'eau.
C'est ça. Mmh. Donc là où on va avoir des vins avec quand même de la structure. Mmh. Et plus on s'éloigne du centre de ce plateau, plus on va avoir de sable, donc des sols plus drainants. Des vins plus fruits, plus croquants.
D'accord.
Voilà.
Super. Justement, tu parlais là de cette parcelle-là du Clos au Renard. Donc, tu me disais là tout à l'heure que vous êtes bio, vous travaillez de façon raisonnée, mise en valeur du terroir. Vous avez abandonné la mécanisation sur le Clos au Renard.
Oui.
Tu peux m'en dire un peu plus?
Alors, l'idée sur le Clos au Renard, donc, nous, on a repris le domaine en 2004. On a repris des vignes qui étaient en culture conventionnelle. Et sur le Clos Renard, on a pu remarquer dès le départ, avant le passage en culture biologique, qu'on avait déjà des vins très différents avec une expression de terroir, quand bien même c'est des vignes qui avaient été désherbées dans le passé. Donc quand on est passé en bio, dans les 2-3 ans qu'on suivit le passage en bio, on avait des expressions encore plus profondes, encore plus significatives sur les autres, mais évidemment aussi sur celui-ci. Et puis, on a eu envie d'aller plus loin, notamment après les deux premières années de gel de 2012 et 2013, où il y avait, je pense, psychologique, un certain besoin d'aller plus loin dans la terre, etc. Et on a un copain dans la région qui a des chevaux, qui a une association et qui fait de la prestation de traction animale.
Ouais.
Et donc qui travaille à cheval maintenant chez nous, toutes les vignes du Clos Renard. Voilà.
Très bien.
Donc on travaille au cheval et du coup on a cessé d'y mettre les tracteurs, donc on traite à dos, l'essimage on le fait à la main, à la cisaille, voilà.
Bon, super. Ce que je propose, c'est éventuellement, là je nous ai versé un petit verre de premier rendez-vous, donc on trinque. Parce que je trouve ça extrêmement bon. Si tu peux nous parler un peu de ce vin, des arômes, des notes, votre travail dessus.
Donc là, on parle de la cuvée Premier Rendez-vous version longue. Alors, je m'explique. Depuis notre installation, on fait une cuvée qui s'appelle Premier Rendez-vous, qui est un assemblage de plusieurs de nos parcelles. En gros, il y a les deux tiers des vignes qui sont sur des sols, sur des perruches plutôt argileuses, sur le cœur du plateau de Husseau, et le tiers restant sur des sols un peu plus sableux. Donc c'est vraiment un équilibre
oui.
entre des jus qui vont avoir de la profondeur, de la structure, et des jus qui vont ramener du fruit et
ouais.
de la gourmandise.
Et de la minéralité aussi
voilà.
un peu. Ouais.
Donc toutes ces parcelles sont vendangées, vinifiées séparément. On vinifie majoritairement dans des barriques de 600 litres et mmh. quelques 400 litres. On intègre un peu de barriques neuves chaque année,
oui.
mais c'est vraiment dans l'idée de renouveler le parc de barriques.
Ouais. Il n'y
a aucune volonté de notre
plus.
Part de marquer les vins,
oui.
surtout pas. Et donc la cuvée Premier Rendez-vous passe 10 mois en barrique.
Oui.
Et ensuite, on fait 2 à 3 mois en cuve. Et là, on est sur la version longue de Premier Rendez-vous.
D'accord.
Qui fait le même temps en barrique. C'est assemblé, c'est le même assemblage que la cuvée Premier
oui.
Rendez-vous. Par contre, là, on fait 1 an en cuve. Et ce qui est intéressant pour nous, mais aussi pour nos clients, pour les dégustateurs, c'est qu'on a le même jus au départ et on est sur 2 dimensions de vin complètement différentes. C'est-à-dire que sur le premier rendez-vous, on est sur un vin qui est croquant, qui a de la fringance, qui a du fruit, de la gourmandise. Et là, sur la version longue, on va plus dans les sols, en fait. On est plus dans les racines. C'est un vin qui a une colonne vertébrale. On est sur un autre
ouais.
registre.
Et une belle
d'expression.
Acidité aussi, ouais,
ouais.
absolument. C'est beau, c'est une petite touche exotique, il y a du citron, il y a un peu de mangue, c'est très très sympa. Où est-ce qu'on peut trouver les vins
Au sourire au pied de
au
l'échelle.
Au sourire au pied de l'échelle, évidemment, donc je le redis, 106 rue de la Roquette. J'ai compris aussi qu'il y avait un bar à vin au domaine.
Oui.
Ça c'est pour te rappeler que tu as été sommelière dans une
c'est
vie
ça,
antérieure,
exactement.
C'est ça.
Exactement. T'as un pari un peu fou, c'est un peu comme si certains de nos copains nous disent « Non mais... T'as jamais fait de restauration, toi, pour t'être lancé dans un truc pareil ?» Parce que c'est deux professions qui sont pas super compatibles,
oui.
parce que c'est deux métiers qui demandent beaucoup de temps et d'énergie.
Bien sûr, ouais.
Mais voilà, on a monté ce bar à vin l'année dernière. Donc on a fait notre première saison en 2017, juin, juillet, août, et on réitère cette année.
Est-ce que tu... pour toi, est-ce que le métier, ton ancien métier de sommelière
me rattrape
ouais,
toujours.
Donc, et d'une te rattrape. Et est-ce que tu y vois un atout dans la façon dont vous composez, faites vos vins avec Bertrand? Est-ce que pour toi, ça,
je
sens
qu'il
y a un apport?
Évidemment que mon métier d'avant me sert, m'a servi et me sert encore. Après, la sommellerie, enfin. Les clients particuliers, notamment qui viennent chez nous déguster au domaine, qui sont des novices en termes de dégustation et qui souvent sont un peu timides parce qu'il y a toujours ce mythe autour du vin, que c'est quelque chose de compliqué, d'inaccessible, qu'il faut être connaisseur
ouais.
Pour pouvoir déguster. Et moi, je leur dis, mais j'y mets surtout pas, quoi. Ils me demandent, mais vous sentez quoi ? Je dis, c'est pas important ce que je sens, moi. C'est
ouais,
qu'est-ce
c'est
que vous sentez, vous
oui.
Parce qu'on a chacun nos repères. Et ce qu'on oublie trop souvent, c'est de faire appel à notre sensibilité.
Mmh. Oui, absolument. Ouais.
Sentir de la pêche ou de la mangue, oui, ok, tant que tu ne sens pas de la mûre sur un vin blanc, tout va bien, quoi.
Oui, non, c'est
de
clair.
De la fraise tagada, puis, mais...
On parle d'émotion, donc...
J'exagère, mais l'important, c'est l'émotion. Et puis la bouteille, je l'ouvre, est-ce qu'on la boit à deux ou pas, quoi.
Magnifique, celle-là, on peut la boire jusqu'au bout, parce que c'est vraiment très bon. Lise, merci beaucoup pour
merci.
Ce moment.
J'ai une petite question parce que ça m'intrigue ce que tu as dit. Tu as dit, si j'ai bien saisi, hein, au début on reprend le domaine et puis on avait une idée, on avait un objectif en tête.
Oui.
Est-ce qu'à l'arrivée, tu as l'impression que vous avez ce que vous attendez ou est-ce que justement le domaine, le terroir, la vigne vous révèle des surprises ?
En fait, notre métier de paysan, c'est de composer avec la nature. Mmh. C'est-à-dire que qu'on soit sur un millésime très riche, très complexe, ou au contraire sur un millésime qui va donner des jus légers avec des petites maturités, notre boulot, c'est de transcender la matière, d'accompagner et de transcender. Je prends deux exemples. Millésime 2013, millésime très froid, très pluvieux, petite maturité, des acidités à vous déchausser les dents. Et là, il se pose la question peut-être de chaptaliser pour amener un peu de gras et de la richesse. Et puis, non, parce qu'il faut faire confiance au travail qu'on fait toute l'année. C'est-à-dire que quelle que soit l'issue, quel que soit le climat qu'on va avoir durant l'été et particulièrement durant les vendanges, parce que c'est le mois de septembre qui fait le millésime quand même. Quels que soient tous ces paramètres-là, nous, on a fait le même travail dans les vignes. Que ce soit un grand millésime ou un moins grand millésime, on fait le même boulot. Et donc, si je prends 2013, c'était des vins un peu étriqués sur la jeunesse, avec beaucoup d'acidité. Et quand on les goûte maintenant, c'est formidable. C'est des vins tout en dentelle, tout en finesse. Pas des grosses expressions, mais ça reste des jolis vins. Et si je prends l'exemple de 2014, c'est un millésime comme on aimerait en faire tous les ans, mais c'est trop facile. C'était très mûr, il y avait de l'acidité. C'est des vins qui se prêtaient à être dégustés facilement sur la jeunesse, qui avaient un potentiel de garde énorme. Pas sensible à l'oxydation, on a pu faire la plupart de nos cuvées sans filtration et sans soufre. Easy life en 2014.
Donc vous avez les vins que vous espériez avoir, que vous pensiez atteindre, ou vous avez les vins qui sont...
En fait, on a plein de mois, on a du temps pour les adopter en fait. Entre le moment où on vendange et le moment où on va mettre les vins en bouteille et les présenter à nos clients, il se passe du temps. Donc on a le temps de les adopter, de les apprivoiser.
De les comprendre.
Mais parce qu'en fait, nous, on va faire aucune intervention pour changer quoi que ce soit. On ne va pas se mettre à bâtonner parce que peut-être les lits nous apporteraient du gras. Enfin non, on a le gras que le millésime donne. Mais on ne va pas changer la manière de faire pour s'adapter à un millésime.
Ok, très bien.
Pour faire un... En fait, si vous prenez la cuvée premier rendez-vous, qui est un peu le fer de lance du domaine, que ce soit la version classique ou la version longue, c'est un assemblage de parcelles, mais ce n'est pas un assemblage à l'éprouvette où on va mettre un peu de cette parcelle-là, un peu de l'autre, pour essayer d'arriver à un but. C'est la photographie d'un millésime sur tel terroir. 2015, par exemple, on a eu besoin de temps pour l'adopter parce qu'on sortait du millésime 2014 qui avait tout ce qu'il fallait là où il fallait. Puis 2015, c'était très riche, il n'y avait pas beaucoup d'acidité. Et puis, petit à petit, à goûter régulièrement en cave pendant les fermentations, les vins, le millésime a commencé à se profiler. Et puis, là, c'est le mode de les pratiques culturelles qui parle, c'est-à-dire que oui, le millésime, il est chaud, il y a peu d'acidité, mais tout le travail qu'on fait depuis des années, chaque année, commence à parler, c'est-à-dire que les vignes, elles ont des choses à dire, le sol s'exprime.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
J'invite les auditeurs à boire des vins de Loire, surtout des vins vers Mont-Louis et Vouvray, parce que c'est des terroirs qui sont incroyables. Et surtout, il faut soutenir ces viticulteurs parce que les conditions climatiques ces dernières années ont été plutôt rugueuses. On parle de gelées catastrophiques sur des millésimes comme 16 et 17, où des gens comme, je pense, Lise et Bertrand ont sans doute été très touchés. François Chiden a plusieurs fois demandé s'il n'allait pas mettre la clé sous la porte, je pense. Des gens comme Jacques Hiblot, c'est des gens qui font des vins incroyables. Les vins de Loire, c'est des superbes vins. Le Chenin, c'est... ma sensibilité personnelle, un des plus beaux cépages du monde.
Évidemment.
Soyons chevins. Lisez Bertrand Jousset, Mont-Louis-sur-Loire, buvez-en.
Pourquoi j'ai pas eu la liste de questions avant, Yann?
Parce que ça ne se fait pas. Nous sommes des journalistes extrêmement pointus. Et la liste de questions n'existe pas. Donc c'est
comment
pour ça que tu l'as
pas
eu.
J'ai l'impression.
Philippe, il prépare toujours beaucoup. Donc on est toujours au sourire au pied de l'échelle, toujours sur les vins de Loire, encore une vigneronne. En fait, c'est soirée vigneronne aujourd'hui.
Ouais. Women do wine.
Women do wine. Quelques jours après la journée de la femme. Philippe, je te laisse nous présenter la personne qui est avec nous.
Avec plaisir. Je suis avec Mathilde. Donc bonsoir Mathilde. Mathilde travaille au domaine Henri Pelé à Morogues. On est en appellation Maine tout Salon, une appellation un peu moins connue que l'appellation Sancerre. On n'est pas très loin justement de Sancerre, sur des vins qui sont faits en Sauvignon Blanc également, comme le Sancerre. Mathilde, merci de nous accorder cette interview. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette appellation Mentou Salon que je pense beaucoup de gens connaissent un peu moins ou n'en ont jamais entendu parler. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
Oui, donc effectivement, c'est vraiment un peu l'appellation petite sœur de Sancerre. Donc on est aussi sur Centre-Val de Loire, c'est une appellation qui fait 450 hectares, comparé à Sancerre qui fait à peu près plus de 3000 hectares, il me semble. Donc c'est vraiment plus réduit, donc on retrouve aussi moins de Mentou Salon, évidemment, sur le marché. Mais on est aussi planté de Sauvignon pour les blancs et de Pinot Noir pour les rouges. Il y a environ 30% de l'appellation qui est plantée de Pinot, donc qui produit des rouges. Et après, on va être sur des blancs secs. Donc c'est une appellation qui a été créée en 1959, donc après Sancerre. Donc on est sur des marnes qui méritent gêne, donc argilo-calcaire. Et puis il y a quelques petites exceptions, rares exceptions.
Le Carroir, par exemple.
Le Carroir, donc ouais. De chez nous, par exemple, qui est sur des silex, donc qui est pas du tout, qui répond pas à la typicité, on va dire, de l'appellation.
Est-ce que cette spécificité se retrouve dans les Sauvignons blancs de Mentou Salon? Est-ce qu'on arrive à distinguer facilement entre un Sauvignon blanc de Sancerre et un Sauvignon blanc de Mentou Salon des différences?
Ben, en proportion, généralement, on va avoir peut-être un petit peu plus d'argile sur les Mentou Salon, notamment plus vers la commune de Mentou Salon, bien que nous, à Morogues, on soit quand même en altitude, donc sur des coteaux calcaires.
Oui.
Et donc sur certaines cuvées, oui, on va avoir un petit peu plus de rondeur, peut-être.
Plus de densité, de matière, sans doute.
Une petite largeur par rapport à des vins qui peuvent être plus tendus sur Sancerre. Mais bon, après, il y a vraiment une variété sur les deux appellations qui fait que... Et énormément de producteurs, donc on a vraiment une gamme de vins très large. Mais globalement, oui, on peut définir comme ça.
D'accord. Donc le domaine Henri Pellet, pour y revenir... On est sur 4 générations de vignerons, si je me souviens bien. On est sur combien d'hectares? Une bonne vingtaine, je crois, c'est ça?
On est sur une quarantaine d'hectares.
Une quarantaine d'hectares, autant pour moi.
Et oui, donc c'est la quatrième génération. C'est mon frère, Paul-Henri, qui fait les vins.
D'accord.
Et puis notre grand-père, voilà, c'était quand même une des personnes qui a vraiment participé à la création de l'appellation. Donc c'est vrai qu'on est dans le paysage de Mentou Salon, on va dire, depuis longtemps. Comme référence, et puis aussi avec la mise en avant vraiment des terroirs de Morogues, ce qui est un peu la signature quand même du domaine aussi.
Tu peux nous raconter un peu comment vous travaillez dans la vigne et comment ça se reflète dans le chai?
Donc les sols sont travaillés depuis une quinzaine d'années maintenant. Ça a été fait un petit peu avant que mon frère revienne au domaine. Et puis quand il est revenu, c'était un petit peu délicat, mais c'était mis en conversion sur 2008-2009. Après, il avait fait marche arrière, même s'il y avait évidemment cette volonté, mais ça faisait beaucoup de choses déjà à mettre en place pour lui, s'installer vraiment et apprivoiser toutes les vignes, tous les terroirs. Et puis là, donc, on est reparti là, sur la conversion, là, sur le dernier millésime. Donc il y a toujours cette volonté. Et oui, évidemment, il y a un travail de respect qui va forcément avec le travail d'identification des terroirs qu'on souhaite faire. Quoi. On peut pas... Enfin, tout le travail qui est fait, c'est pour avoir une chouette matière. Et cette matière, c'est ce qui nous permet que les blanchers, c'est différent du carroir, c'est différent de vignes de ratier. Et ça, on ne peut pas l'avoir si on n'a pas ce travail de respect de la vigne et du raisin. Et puis après, on a la chance aussi, notre grand-père et notre arrière-grand-père étaient pépiniéristes aussi de vignes. Et du coup, on a quand même, notamment sur les blanchers... On a un super matériel végétal et Paul-Henri fait faire tous les plans maintenant de Sauvignon à partir de ce matériel végétal. Donc il a fait une sélection de 200 individus, il me semble, sur la parcelle des blanchers. Et maintenant, tous les greffons sont faits sur la base de cette sélection qui était déjà une sélection de notre grand-père.
Donc en sélection massale.
Exactement.
Ouais. Pour justement renforcer la vigne et la rendre moins sensible aux maladies et...
Exactement. C'est vrai que nous, on a pas mal de problèmes d'ESCA sur l'appellation. Et on voit bien que ces vignes-là qui ont été sélectionnées, elles ont été plantées à la fin des années 70, il me semble. Elles ont beaucoup moins de problèmes que sur des plantations plus récentes. Donc il y a une volonté historique et puis il y a une volonté de sauvegarder, de respecter le travail que des générations ont pu faire avant.
Donc, oui. Donc oui, et puis assurer la transmission, la continuité d'un...
J'avais compris aussi que Paul-Henri, donc ton frère, avait aussi travaillé en tandem avec un vinificateur qui avait un peu assuré la transition, Julien Zernotte.
Oui.
Est-ce que tu peux justement parler de ce personnage, parce qu'il est aussi
intéressant. Oui, c'est un maillon. Hein. Ouais. C'est vrai que c'est plus par rapport à... Enfin, c'est les drames, on va dire, de la vie qui font que des exploitations comme ça peuvent se retrouver sans seul homme de tête. Mmh. Donc, c'était notre père qui est décédé en 95, où on était petits. Et puis, Julien était en stage en 94 avec lui pour les vinifications, en stage de fin de DNO. Mmh. Donc, tout naturellement, mon grand-père et ma maman se sont tournés vers Julien pour prendre la suite, pour assurer le travail dans les vignes, les vinifications. Et puis Julien, en parallèle, a commencé à fonder en 2003 l'excellent domaine du Pas de l'Escalette. Donc c'est vrai que ça s'est bien passé, on va dire, cette transmission. Il savait que Paul-Henri reviendrait. Paul-Henri est revenu définitivement en 2007 à la fin de ses études, ou 2006, je ne sais plus très bien. Et puis voilà, Julien, lui, était déjà prêt à partir sur les terrasses du Larzac. Donc, non, c'est sûr que c'est important. Voilà, il y a ces histoires de vie qui font que...
Oui, c'est des cheminots, ouais.
Voilà. De tomber sur des personnes comme Julien a pu l'être, c'est important pour assurer la suite.
Oui, quoi. La pérennité
exactement.
De la fin du domaine. Et donc aujourd'hui, Mathilde, donc tu es venue avec quelques bouteilles. Je crois que tu es venue avec un Morogue blanc, si je me souviens bien, c'est ça aussi, j'ai bien noté. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce vin pendant que je vais essayer de...
D'aller chercher un verre
pour que tu nous fasses un commentaire un peu plus poussé. J'arrive.
D'accord.
Tiens, j'en profite. J'aurais plus une question sur le Sauvignon blanc, en fait, qui est un cépage que, personnellement, moi, je ne connais pas très bien. Qu'est-ce que tu mettrais en avant sur ce cépage ? On vient juste de de rencontrer Lise, qui nous parlait de son amour pour le Chenin. Qu'est-ce que tu dirais du Sauvignon blanc ? Qu'est-ce que tu mettrais en avant ?
C'est vrai que c'est assez délicat parce que finalement c'est un cépage qui peut être très vite variétal et finalement il n'y a pas
qu'est-ce que tu entends
là sur des aromatiques un peu exubérantes, le fameux et pipi de chat que personne n'a envie de prononcer, mais et finalement il y a quand même on est quand même, je pense, en centre-Val de Loire sur un très bon lieu pour le Sauvignon. Mmh. Et on ne peut pas cultiver du Sauvignon partout. Moi, je pense que c'est quand même difficile d'avoir des expressions, très jolies expressions de Sauvignon dans certains endroits qui ne se prêtent pas à sa culture. Quoi.
Et là, qu'est-ce qui lui permet justement de s'exprimer ? Puis après, tu parles peut-être du vin, mais c'est le sol, c'est alchimie entre le sol, climat, ensoleillement, etc. Mais
Oui, ce qu'on va appeler terroir. Et puis Morogue, oui, c'est un chouette terroir pour le Sauvignon qui a. Qui a été mise en avant dès le début un peu par notre grand-père aussi. On est un petit peu plus en altitude que sur le reste de l'appellation, sur des coteaux calcaires. C'est un assemblage de plusieurs parcelles, mais qui sont vraiment très proches les unes des autres. On est vraiment sur le même climat, on va dire. Donc c'est un peu le cœur de... C'est l'identité village et l'identité de notre domaine. C'est D'accord. vraiment ça l'histoire de cette cuvée.
Ouais, on est sur un vin qui est très minéral. On sent bien la minéralité, on sent qu'il y a quand même du gras, et puis une belle fraîcheur, et puis cette typicité du Sauvignon blanc, hein, très herbacé, côté un peu asperge, très, très agrume, très citronné. Moi, j'avais eu l'occasion de goûter Morogue il y a des années de ça en venant au domaine, justement. J'avais été vraiment très impressionné par cette expression de Sauvignon blanc. Un peu plus dense et un peu plus grasse que les Sauvignons blancs qu'on trouve à Chavignol, à Buée ou à Sancerre, mais qui mérite vraiment sa réputation et puis d'être valorisé, ouais, absolument.
Oui, et puis c'est vrai qu'il y a une belle minéralité, donc on part de la longueur, et puis là on est sur millésime 2015, donc c'est un très beau millésime en Loire. Donc la largeur un peu qu'on retrouve, ça va plus être justement cet effet millésime. On va avoir des jolis fruits aussi. Et en même temps, quand même, cette expression très tendue qui est assez caractéristique de ce vin-là. C'est à la
fois tendu et assez ample, en fait. Alors peut-être que c'est l'expression du millésime, comme tu le dis, mais voilà, c'est vraiment ce genre de vin qui ont ce bel équilibre entre la tension, cette acidité qu'on aime, enfin que moi j'aime beaucoup dans les blancs, et puis en même temps, ben voilà, il y a du corps, il y a du fruit, il y a beaucoup de choses, il y a de l'ampleur, il y a de la largeur, comme tu viens de le dire.
Alors justement, donc par rapport à une cuvée comme Morog, qu'est-ce qu'on va retrouver dans le Caroir, qui est un peu votre cuvée, je dirais un peu exceptionnel ou star, je sais pas comment il faut employer, quel mot il faut employer pour ça. J'avais cru comprendre que le Caroir était sur un terroir qui était très différencié et très singularisé par rapport au reste de vos vignes. On est sur, tu disais, du salex et
sur
du silex et du sable, je crois.
Non, il n'y a pas de sable, on est sur des silex. Après le reste, enfin, c'est argile, mais base de silex, alors que là, on est sur des calcaires. Après, on a d'autres parcellaires hein, qui sont les vignes de Ratier et les Blanchets. Nous, on ne voit pas comme une star, c'est une autre expression. Tous nos vins sont vraiment des expressions différentes de terroir et de leur typicité. Et donc les trois parcellaires, voilà, c'est des endroits, des climats, des terroirs. Il y a tous ces mots-là pour les définir. Et puis à chaque fois, le travail que fait mon frère, c'est d'arriver à l'expression la plus juste, en fait, de la réalité et de ce que les vignes peuvent porter.
Ouais, voilà. Absolument. Ouais.
Donc même sur Morog, il y a aussi cette volonté-là. Il y a jamais de... Il n'y a pas de maquillage, et tout le travail est fait pour ça, en fait. D'accord. Pour porter vraiment les identités, révéler les identités des terroirs.
Quoi. C'est quand même un travail, ce sera la dernière remarque ou question que j'aurais à formuler, mais c'est quand même assez remarquable de faire un travail comme ça. On parle quand même de 40 hectares. Comment on arrive à ce résultat sur 40 hectares parce que c'est impressionnant, j'imagine que c'est un travail de titan. Vous employez combien de personnes à peu près sur le domaine ?
Il y a une quinzaine de permanents et puis des saisonniers pour tout ce qui est travail dans les vignes. Et puis après, on a un bel outil de travail. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas que le moment des vendanges, ça ne serait pas vrai de dire ça, mais Paul Henry est très rigoureux tout le temps. Et puis, je pense que voilà, il a un attachement et un bon sens dans son lieu de vie et son lieu de travail qui fait qu'il est très précis dans ses décisions. Et puis maintenant, ça fait quand même plus d'une dizaine d'années qu'il, même s'il est très jeune, fait quand même une dizaine d'années qu'il fait les vins.
La valeur n'attend pas l'âge. L'âge
non. et puis voilà, c'est vrai que le moment des vendanges, c'est très intense. Et ça dure quand même 3 semaines, mais c'est vrai que c'est extrêmement intense et que là encore, il y a une rigueur. Il faut aller goûter les vignes, il faut en même temps rentrer des raisins, il faut savoir qu'est-ce qu'on mange demain, etc. Mais il y a toujours eu, de toute façon, ce travail quand même de séparer les terroirs, de bien maîtriser, d'aller ramasser chaque parcelle au bon moment, même si c'est le souci d'un peu tous les vignerons, ouais. Normalement. C'est vrai que sur la surface, là, il faut quand même envoyer. Donc, il faut des gens, faut bien s'entourer.
Absolument. Ouais.
Et il faut de la bonne humeur et de la rigueur et de l'attention de la part de tout le monde.
Ouais. Concrètement, vendanger au bon moment, ça veut dire que vous pouvez avoir plusieurs équipes en même temps pour prendre les parcelles au bon moment, ou vous êtes quand même contraint de faire l'une après l'autre au moment des vendanges ?
Ça arrive.
C'est
parfois
un casse-tête, en fait.
On ramasse des blancs et des rouges en même temps. Mais non, il faut surtout avoir... parfois, on a une équipe de 70 coupeurs, donc ça va relativement vite. Après, en cave, il faut suivre. C'est là où on a quand même en cave un super outil de travail et qui a été bien dessiné par les générations précédentes. Et puis, Paul Henry a fait refaire la cuverie pour les vendanges 2016. Donc là, on a toute une variété de contenants qui fait qu'on est toujours très, très précis. Même sur un même pressoir, on peut séparer certaines choses. Et voilà, il y a un travail d'analyse constant et quotidien qui demande des efforts et de la rigueur. Mais je pense que c'est pas un secret, mais voilà, c'est ça.
Oui,
C'est ça, c'est de la rigueur et ça se retrouve bien dans le verre. En tout cas, merci beaucoup Mathilde pour cet entretien et nous avoir accordé de ton temps. Le domaine, c'est Henri Pelé, en Morogues, donc c'est Centre-Loire. Le département, c'est quoi déjà ?
C'est le Cher.
C'est le 18. Cher. Voilà, c'est
et
18.
On est à une vingtaine de minutes de Sancerre.
Voilà. Donc, si vous avez l'occasion d'aller à Sancerre, n'oubliez pas de faire un crochet à Morogues parce que ça vaut largement le détour. Et puis surtout, une belle histoire de transmission sur 4 générations qui se perpétue. Et puis oui, le talent n'attend pas le nombre des années et ça se traduit bien dans le verre. Donc, merci encore.
Merci à Mathilde. Vous. Et bon week-end à tous.
Bonsoir.
Bonsoir
Yann.
Bonsoir.
Merci de nous accueillir. On est au 106 rue de la Roquette, dans le 11e arrondissement. On est dans une cave qui s'appelle Le Sourire au pied de l'échelle. On est avec le patron, Yann. Cette cave, elle a été ouverte, je crois, en 2016. Donc
c'est juste.
C'est assez récent.
Septembre 2016.
Ouais. C'est une émanation donc, d'un restaurant qui s'appelle Les Marchands de Planète, qui est juste en face. Est-ce que tu peux un peu nous parler de cette cave, de sa philosophie, comment tu en es arrivé à vouloir ouvrir un lieu où on vend du vin ?
Eh bien, c'est la prolongation d'un métier, la restauration, un métier qui est un métier de vie et d'acharnement. Hein, c'est un gros travail, mais le plaisir se trouve dans le choix des produits. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. En fait, ce restaurant m'a donné la dimension d'artisan. Et en fait, quand je suis arrivé ici à 14 ans, commencer à acheter des vins pour faire une carte des vins, eh bien, je me suis dit, au fait, qui fait quoi, comment ? Et ça a été une enquête et une découverte des terroirs de France qui ne s'est jamais arrêtée depuis. En fait, donc, j'avais 24 ans, j'en ai 39. Et cet endroit ici, là, le sourire au pied de l'échelle, c'est un peu la mise en lumière de tout ce travail. C'est-à-dire que toutes ces années travaillées dans ce que j'appelle un pub à la française, le Resto Zing, en face, parce que c'est une ambiance intime, sombre, alors qu'ici, on a osé mettre en lumière notre travail, c'est-à-dire montrer les bouteilles, dire qu'il y a 400 références, dire qu'il y a des vignerons qui nous suivent et que nous, on suit, enfin, et qu'on met en valeur et qu'on va défricher. Bon, eh bien, ça fait partie de quelque chose que je cachais et que maintenant j'ose montrer et qu'on peut voir dans ce lieu. Donc, on peut venir ici, s'instruire, participer à un atelier. C'est vraiment un travail de mise en lumière aussi dans l'éclairage intellectuel qu'on peut avoir dans le vin. Et l'ambition, c'est quand même du plaisir, de l'exigence, de l'amour et du partage, quoi.
Ouais, la mise en valeur d'un produit, parce que en fait, c'est un peu ça que tu travailles au travers de la cuisine en face, et puis la continuité avec les vignerons qui sont attachés à mettre en valeur leur terroir. C'est ça qui t'intéresse. Je crois que tu as un parcours très éclectique. Notre ami Nicolas, qu'on a un peu en commun, me disait que tu avais fait beaucoup de choses avant, que tu avais un peu voyagé. Tu peux nous en parler un peu plus ? Je sais que tu as été un peu à l'étranger, que tu as...
C'est vrai, mais j'ai l'impression que mon parcours est on ne peut plus classique, en fait. Je dirais que ma trajectoire a été tracée dans le sens où, vers 16 ans, quand après des difficultés au collège, je dis haut et fort, je vais tenir un pub. Tout d'un coup, je me retrouve à 16 ans donc à être en école de restauration, à être en hôtellerie et à faire mon premier extra. Et donc de fil en aiguille, on fait des extras. Enfin, j'ai fait des extras. J'ai pu me payer une voiture, mon permis, une voiture, vivre en appartement, commencer à travailler, bon, et donc dépenser plus, donc toujours travailler plus, tout de même, et tout de même là-dedans, en faisant un BTS, voilà. Et puis après, le deuxième point, c'est quand même les rencontres. Donc pour te dire que, tu vois, 16 ans, 39 ans, il y a quand même 23 ans quasiment de métier, à tous les étages, hein, forcément, parce qu'à 16 ans, j'ai pas du tout la même vision du monde. Mais c'est comme si que la trajectoire a été tracée et que ça va continuer, parce que je me vois bien dans les 20 ans, ou si j'ai la chance d'aller plus loin, je vois pas pourquoi ça s'arrêterait, si tu veux, cette envie Alors oui, tu as raison de mettre en valeur les produits, mais c'est aussi cette envie d'accueillir chaque personne et de trouver ce qui va bien pour chaque personne. C'est quand même ça le cœur de mon métier. Que je sois derrière le comptoir, que je sois devant une assiette en train de faire une assiette, ou que je sois à la cave en train de soit de conseiller, soit d'expliquer quelque chose. J'essaie vraiment de repartir de chaque personne.
Et puis transmettre ta passion également.
Oui.
Tu as un terroir d'élection. Est-ce qu'il y a des vignerons qui te parlent plus que d'autres?
C'est vrai que ces dernières années, j'ai pas mal eu le nez dans la Bourgogne. Dès mon premier voyage en Bourgogne, alors c'est marrant parce que là, il y a Cyril qui est là. Ça fait partie des rencontres bourguignonnes, tu vois, à Gevrey, en faisant les vendanges là-bas en 2013, c'était incroyable.
Armand Rousseau, c'est ça?
Bon, voilà.
Enfin, le domaine, pas, voilà.
Exactement. je pensais pas le dire, mais.
disons-le.
Et l'amour de la Bourgogne, c'est ces rencontres-là, mais c'est aussi Jacques Marchand-Griot, c'est aussi des rencontres dans la Loire, par exemple, avec Mathieu Baudry. C'est des rencontres à Montpellier avec, avec Alexandre du domaine de la prose. Ce sont des rencontres comme ça qui, dans le temps, tu vois, 15 ans plus tard, continuent à me nourrir. Et puis, c'est de plus en plus fort. Tu vois, ce soir, il y avait Lise qui était là. Je sais pas, ça fait peut-être 10 ans que je suis le vin du domaine. Charles Bonafont à Gaillac. J'achète des vins. Enfin, je suis le domaine depuis que je me rappelle, c'est-à-dire peut-être 2006-2007. Enfin, tu vois, aux parents d'abord. Et j'ai vu le parcours de Charles qui me parle beaucoup, puisque Charles est aussi un mec qu'on veut, qui a des idées, qui a des
convictions,
convictions, qui a une trajectoire incroyable. Et voilà, on avait ce soir, tu l'as interrogé aussi, Mathilde du domaine Henri Pelé. Bon, tu vois, entre des nouveautés et puis des choses qui viennent de loin, avec des gros parcours, bon, ça fait qu'il y a une histoire incroyable. Enfin, c'est comme si les racines poussaient, quoi. Tu vois, on dit des vieilles vignes, bon, c'est pas pour rien, quoi. Tu vois, ici c'est le terreau, mes clients c'est ma matière vivante, et puis les racines c'est l'histoire qui se construit, quoi.
Super. Et tu peux nous parler un peu plus du sourire au pied de l'échelle, d'où ça vient ce nom pour les gens qui nécessairement n'ont pas lu Henry Miller, par exemple.
Bravo. Voilà. C'est déjà ça. Hein. Henry Miller, ouais, c'est vrai que c'est une nouvelle d'Henry Miller, mais c'est l'histoire d'un clown. Un clown qui cherche l'extase ou l'élévation. Donc, ce clown est en quête de. Donc, un jour, il s'oublie, et malgré lui, le public l'applaudit. Bon, c'est super. Il s'oublie parce qu'il est au bout de lui-même, tu vois. Donc, c'est, pour moi, c'est vraiment le. Un gros effort de décloisonnement et de recherche de vérité. J'ai envie de dire pureté, mais c'est pas un mot qui... Mais ça va par là. Après, il se passe pas un domaine où je vois pas un foudre, un tonneau ou une cuve et une échelle pas loin. C'est incroyable, tu verras dans ton expérience.
Absolument.
Voilà, donc,
il faut grimper, il faut une échelle pour grimper sur les cuves, pour les sentir.
Et donc
pour,
le sourire au pied de l'échelle. Donc si on va voir ce qui se passe là-haut. Tac, c'est les vendanges, c'est 2017. On est chez notre ami Mathieu Baudry. On monte en haut de l'échelle, tu vois, c'est incroyable. On se retrouve avec Bernard en train de faire des filtres. C'est super. Et là, je me dis, mais c'est vraiment incroyable ce nom parce que ça fait des échos de toutes parts.
Oui, et d'ailleurs, ce que je trouve assez génial, c'est la façon dont vous avez marketé ça, la carte de visite, la petite échelle en balsa en guise
de carte de
visite et qui vous rend très visible. Je trouve ça très sympathique.
Merci.
Et donc justement, le clown, le sourire en bas de l'échelle, ça renvoie un peu aussi à une de tes passions ou de tes activités, puisque tu... Le clown, pour toi, c'est un personnage important. Tu peux nous parler un peu plus, justement, de cette partie un peu que, de toi-même
secrète.
Que tu exprimes, pas la plus secrète, mais que tu exprimes aussi d'une autre manière.
C'est vrai, j'aime les clowns et je joue un solo de clown. Un clown rêve d'être chanteur, donc c'est-à-dire que c'est un clown...
Un clown
arrive sur scène et casse des bouteilles et dans son rêve, dans sa mort, peut-être... On le voit apparaître comme chanteur. C'est un théâtre d'improvisation. Donc c'est à la fois un théâtre d'improvisation sur le moment, avec des choses qui vont très loin, très fortes, et en même temps avec un spectacle, un bout de spectacle écrit, puisque le clown chante.
Magnifique.
Nulle part. On aurait pu le voir à une époque. Actuellement, je suis dédié à 200% sur... le vin, ces restos, les équipes qui travaillent pour moi, enfin avec moi. Et je suis vraiment très occupé par ça en ce moment. Ce spectacle-là, si un jour il réapparaît, ce sera magnifique.
Et on sera ravis d'y assister.
Ce sera magnifique pour d'oser le refaire, en tout cas.
Bon, tu en fait, Yann, tu es un véritable couteau suisse. Et justement, en parlant de couteau suisse, moi, je voulais te faire un peu travailler. Je t'ai apporté une petite bouteille. Elle est à moitié débouchée. C'est un de nos points communs. On parlait de Mathieu Baudry, de Bernard Baudry, du domaine Bernard Baudry à Chinon. Et donc, on vient de déboucher un Clos Guillot 2014. J'ai eu la joie de faire vendange 16 et non 15 et 16 chez Bernard et Mathieu Baudry. J'ai vendangé cette parcelle. On a travaillé aussi avec notre ami Nico là-bas. Donc, Nico a fait 17. Mais c'est un lien. Et je me disais que ce soir, on pouvait la déguster ensemble.
Super. T'as choisi une belle parcelle.
J'ai choisi une très belle parcelle, ouais, effectivement.
Le Clos Guillot avec ses argiles magnifiques, avec cette étiquette qui reprend le terroir de ces argiles particuliers. En coteau, on est en plein cœur de Chinon.
Absolument.
Je vais te servir. Je vais te servir avec un peu de micro comme ça. Et voilà, parfait.
14.
Ouais, je vais te dire un truc, la robe est sombre. Je le dis parce que j'imagine que sur un micro, ça ne se voit pas. Mais c'est sombre, sombre. On ne voit quasiment rien à travers. C'est un beau rubis, on ne voit pas de signe d'évolution. Le vin est brillant. Alors que pourtant, je sais qu'ils sont modérés sur l'espèce de filtration. Je ne l'ai pas mis. Il est loin de mon nez et je sens déjà quelque chose. Voilà, c'était typique du Clos Guillot. On a cette puissance intense. Moi, ça me fait penser immédiatement à du sang, des clous de girofle.
C'est épicé.
Cette chose... voilà. Tout de suite. C'est typique de ce que fait... alors, ce qui est aussi, je peux sentir un début d'apogée. Je sens que le vin s'épanouit. Ouais, ça fait plaisir, ça donne envie de boire. On va voir s'il tient ses promesses en bouche. Promesse tenue. Promesse tenue.
Incroyable.
Pendant que je parle, le vin se développe et va aller dans des longueurs. Ça rentre en bouche avec une belle amplitude. Le toucher du vin, on sent que le raisin est mûr. Il y a une puissance terrible avec ce vin. C'est-à-dire que ça s'en va. Le geste est juste. Nicolas, il fait un signe vers le haut. Et ça s'en va. Donc très puissant, c'est équilibré. Et en même temps, on sent les épices se développer au fur et à mesure de la bouche. Et donc, on est tenu en longueur. Par le jus, par la sanguinité, par la minéralité, parce qu'il y a une acidité minérale qui porte, qui est la colonne vertébrale de tous ces arômes, et on finit sur épices, plus fruits, plus sang. D'ailleurs, ça ne finit pas, je ne sais pas pourquoi.
Le Cabernet Franc, c'est un cépage bon qui te parle, toi ?
Ça me parle bien, ouais. Ah ouais. C'est parfois austère, c'est parfois rustique, c'est parfois pas pour toutes les bouches. Mais quand on met le nez là-dedans, c'est que justement la bouche devient un peu plus adulte. Et ça, dans la trajectoire d'un dégustateur ou d'un amateur, c'est fascinant. Et ce qui est génial avec chez Mathieu, c'est que c'est facile de parler de sol. Parce que tout d'un coup, on peut comprendre ce que c'est qu'un cabernet sur un argile, un cabernet sur des calcaires, un cabernet sur des graves, oui. Un cabernet sur des sables. Et donc, on a des friandises différentes, des intensités différentes. Et c'est remarquable, ouais. Le travail qu'ils font. Ce qui est remarquable aussi, c'est qu'il y a une transmission père en fils, 42e millésime de Bernard.
Qui est incroyable.
Un choix de non-levurage, donc c'est-à-dire de faire tout en levure indigène depuis déjà bien longtemps. Et bon, bah voilà, avec l'expérience de Nico que j'ai suivi là, sur le dernier millésime en vendange, on peut aussi constater que tous les grands, toutes régions confondues, passent dire bonjour à Bernard et Mathieu et viennent discuter la vendange actuelle et puis ouvrir un vieux millésime et puis ça fait école. Ouais. Et puis c'est généreux dans le partage. Donc ça, c'est la beauté du domaine. au-delà de la beauté de ce vin.
Absolument, absolument. La beauté des personnes, effectivement, des soirées de dégustation après des journées de vendange assez épiques. La Croix Boissée aussi, qui est un cru sublime. On a dégusté des litres et des litres entre les blancs, les rouges.
C'est sympa, hein, merci d'apporter ça, c'est chouette.
Avec grand plaisir, c'était l'occasion de partager un beau vin avec des personnes qui travaillent dans le souci justement de mettre en avant ce travail.
Ouais. Mathieu nous a fait le plaisir de faire. On a organisé une verticale du Clos Guyot ici parce que j'avais pas mal de vin en réserve de chaque millésime. Et alors, il nous a fait le plaisir de venir. Et c'était sa première verticale de son propre vin, tu vois. Bon, je sais plus, on a aligné 10 millésimes. Et c'était vraiment un moment magique. Et ce qui est génial aussi, c'est que l'humilité de ces personnes-là dans le travail me touche beaucoup parce que Mathieu, il va dire: ah ouais, tiens, sur ce millésime-là, par exemple, je sais pas, en 2006, si j'avais la connaissance ou l'expérience actuelle, j'aurais peut-être pas fait ça comme ça. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça veut dire que, voilà, Bernard, c'est pareil, 42e millésime plus tard.
Ouais, arrive à se remettre en question.
Complètement. Et ça, j'espère, je le souhaite que. Ça, c'est une ligne de conduite magnifique. Je prends exemple.
Super. Écoute, Yann, merci beaucoup pour cet accueil.
Bonne formation.
Merci beaucoup. Merci aussi pour la petite leçon de dégustation. Moi, j'aimerais bien pouvoir. Avoir la même faconde et la même, le même vocabulaire que tu emploies quand on déguste un vin, parce que c'est juste incroyable. Donc c'est une belle leçon.
Merci.
Et puis on reviendra, on incite les gens à venir au 106 rue de la Roquette.
Oui, bon. On incite les gens.
On est sur
buvez les gars.
On est sur du digital, donc on n'est pas sur les grandes ondes, donc tout va bien. Buvez les vins de Bernard et Mathieu Bouvdry, ouais. Buvez les vins de Lise Jousset, buvez les vins du domaine Pelé, venez les acheter au 106 rue de la Roquette, au sourire au pied de l'échelle. un numéro merci. De clown, le barnum, la cuisine, les vins, les spiritueux aussi. Et puis, encore bravo.
Bah, au plaisir les gars, merci.